Oh, ça va bien tout le monde? Vous avez pris du soleil en masse cette semaine, peut-être un peu trop? Avez-vous bruni ou rougi? J'aimerais vous donner un contexte. Lorsque les anciens m'ont demandé de préparer quelque chose pour aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir sur un mot. Des fois, je prends un mot dans la Bible, puis dans ce cas-là, c'était le Nouveau Testament, puis je regarde rien que le mot. Puis il sort des affaires. Puis en même temps, j'étais en train d'écouter D.A. Carson sur l'Évangile et la culture et l'Évangile, Christ et la culture, etc., etc. Puis, en fin de compte, on découvre qu'Evangelion, qu'il y a 73 versets dans le Nouveau Testament qui parlent de ce mot-là. Ce qui est étonnant, c'est que quand on lit les Évangiles, c'est la traduction, c'est « bonne nouvelle ». On arrive dans les Épîtres, le reste de la Bible, excepté une place dans Romains où c'est marqué « bonne nouvelle », une place dans Romains, mais le reste, c'est marqué « Évangile ». Et c'est intéressant de voir ça que les traducteurs ont décidé de le même mot, de l'appeler « bonne nouvelle » à quelque part, puis de l'appeler « évangile » à eux. D'où ça vient le mot « évangile » Bien, la première petite racine, c'est au 13e siècle, mais c'est surtout le 15e siècle qu'on voit ce terme évangélique, évangile, sortir, venir d'un dictionnaire, venir dans le monde évangélique. Il est très populaire, si vous lisez l'actualité de cette semaine, puis si vous êtes au Palais de justice de Québec, vous allez voir que le mot évangélique, évangile, est très, très populaire de la mauvaise manière. C'est quoi l'évangile? C'est quoi un évangélique? Pas mal n'importe qui peut se lever debout sur une boîte de savon puis se dire « Moi, je suis un évangélique. » Ça me fait penser dans les années 70, ou ce que tu disais aux gens autour de toi, « Moi, je suis chrétien. »« Ah, c'est quoi ça, un chrétien? » Aujourd'hui, tu dis « Je suis chrétien. » Je parlais à des témoins de Jéhovah dernièrement, puis lui aussi il disait « chrétien. » Les catholiques se disent chrétiens, les mormons se disent chrétiens jusqu'à un certain point. les termes, le champ sémantique du mot a changé. Hein? Ça ne veut plus dire la même affaire. Comment trouver la vraie signification de l'Évangile? C'est quoi l'Évangile? Si vous allez faire une maîtrise aux États-Unis, à une certaine école biblique, ils vont vous poser des questions sur l'Évangile. Ils vont dire « définis l'Évangile en un mot ». Ensuite, ils vont vous dire « définis l'Évangile en une phrase ». Ensuite, ils vont vous dire « définis l'Évangile dans un paragraphe ». Ensuite, ils vont vous dire « définis l'Évangile » avec 12 pages. Sentez-vous en forme? Et c'est ça, en fin de compte, qui m'a mis sur la piste de qu'est-ce que je vais vous partager. Piste de réflexion ce matin. Evangelion, qui paraît 73 fois, en fin de compte, c'est un mot en latin qui est apparu au 13e, comme je disais, puis il a été emprunté du grec, et puis après ça, il est revenu dans l'histoire. Mais là, c'est vraiment une étiquette, hein? C'est un tag. Je suis un évangélique. Et j'ai un livre à maison là, d'un prêtre catholique. Si vous lisez ça, là, vous dites, il annonce l'Évangile. C'est un évangélique. C'est quoi l'Évangile? 2 Corinthiens 13, 5 nous dit ceci. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi. » La foi, le corps de doctrine. Pas la foi subjective, là. Ou « moi, je crois, moi, je crois. » Il y a un grand homme de Dieu qui disait, c'est D.A. Carson qui donnait son témoignage, puis il disait, « moi, j'ai accepté le Seigneur, j'avais 3 ans. » J'ai accepté le Seigneur, j'avais 9 ans, puis j'ai accepté le Seigneur à ma deuxième année à l'université. Je pense que c'est vraiment là que j'ai accepté le Seigneur. C'est quoi être un évangélique? C'est quoi l'Évangile? Aujourd'hui, être chrétien, n'importe qui laisse échapper Jésus de sa bouche, il se dit chrétien. Mais c'est quoi un chrétien? C'est quoi l'Évangile? C'est qui l'Évangile? Et je crois qu'avec les années, les termes perdent leur saveur, comme le sel perd du goût. Et si tu regardes le champ sémantique des mots, tu t'aperçois que les mots ne veulent plus dire la même affaire. Un mot voulait dire « Hey, c'est l'enfer! » Voilà 100 ans, si j'avais dit ça, là, tout le monde pensait à des flammes et du monde en barbecue. C'est sûr, sûr. C'est l'enfer. Hein? Pas vrai? Hein? Aujourd'hui, tu dis « C'est l'enfer, c'est quoi? » Ça va péter, c'est le party, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est l'enfer! Non, c'est pas ça. Hein? C'est l'enfer. Alors, vous voyez, les mots changent. La signification des mots change. Alors, pour avoir la bonne définition de l'Évangile, il faut aller aux sources. Pas question de partir au 13e siècle, au 15e siècle, au 19e siècle. Pas question de partir en 70. Pas question de partir en 2018. Il faut aller premier siècle, la bouche même du cheval, qui s'appelle Paul. L'évangile que Paul prêchait. Quelle sorte d'évangile qu'il prêchait dans ce temps-là? Ça ressemblait à quoi dans ce temps-là? Alors, on va embarquer d'une machine à reculer dans le temps et on va aller réfléchir cela ensemble. Je vais dire des choses peut-être difficiles ce matin pour certains, mais dites-vous une affaire, c'est des pistes de réflexion que je vous donne. Puis je vais commencer par la définition de Paul, qui est une définition très connue, qui est 1 Corinthiens 15, 1 et 2. Puis la première chose qu'il va dire, il va dire « Je vous le rappelle ». Alors, ce matin, je fais comme Paul, je vous rappelle des choses, vous savez tout ça. Oh, c'est tellement facile, l'Évangile. Quand j'avais 20 ans, je m'intéressais à la prédestination. À 25 ans, je m'intéressais à la prophétie. À 30 ans, je m'intéressais à la sainteté. Et la justification, à 50 ans, je m'intéressais à survivre. À 70 ans, je m'intéresse à l'Évangile. Pourquoi? Parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une dynamite. Le mot puissance, c'est le mot dynamite dans Romains 1, 16, 17. Alors, je vous rappelle, frères, qu'est-ce qui nous rappelle? Première chose qui nous rappelle, l'Évangile qui vous a été annoncé. Si ce n'est pas elle, ça ne va pas bien, mais regardez bien ce que Paul veut nous dire ici. L'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré. Regardez, on continue. Et par laquelle vous êtes sauvés. Alors, l'Évangile de Paul, c'est un Évangile qui est proclamé, l'Évangile est reçu telle qu'elle est proclamée, elle n'est pas changée, elle n'est pas diminuée, et elle nous sauve. Sauve veut dire saint-sauf, tout simplement. C'est qu'avant, on n'était pas saint-sauf, mais là, on l'est saint-sauf, là, à cause de l'Évangile. Ensuite, si vous la retenez dans les thèmes où je vous l'ai annoncé, oh, le si, ah, oh, ça fait peur. Hein? C'est intéressant, les thèmes. C'est logos qu'il y a là, le mot fameux. Là. Mais les thèmes, quels thèmes que Paul prenait pour annoncer l'Évangile? Est-ce qu'il déguisait l'Évangile avec du beau parfum? Pour faire croire au monde, si tu laisses échapper Jésus de ta bouche, tu es sauvé. Si tu viens t'asseoir dans une assemblée évangélique à tous les dimanches matins, tu es sauvé. Si tu es un activiste chrétien, tu es sauvé. C'est ça que Paul disait. C'est-tu l'Évangile que Paul prêchait? Posez-vous la question. Quelle sorte d'Évangile que Paul prêchait? Regardez, autrement vous auriez cru en vain. Pourquoi? Parce que vous avez cru en vain, parce que c'est une fausse Évangile. C'est un évangile qui ne garde pas les termes de la Bible, mais qui ont pris la signification de l'histoire de l'Église et des dominations et tout ce qu'on peut rajouter. Le Wider Grace Movement, la grâce élargie. Je pense que vous... Y a-t-il quelqu'un qui connaît ça ici? Je ne sais pas. Hein? Le Seigneur descend d'un place après la mort pour donner une seconde chance à ceux... Hein? qui n'ont pas accepté le Seigneur de leur vivant, il donne une deuxième chance dans, quand ils meurent. Il y a l'idée aussi que si tu te fais frapper par un char puis tu penses à Jésus, tu es sauvé. Schroeder. Dès que ça te représente en main, un gros paquet comme ça. L'évangile que Paul prêche, proclame, comme un carouso, c'est le mot carouso qui veut dire, mon père disait, hey, ce gars-là, il chante comme un carouso. Vous avez entendu cette expression-là? Paul, c'est un carouso de l'évangile. Il annonçait l'évangile, c'était la naissance, c'était la racine, c'était la semence de l'évangile qui sauve. Mais si les termes sont enlevés, modifiés, remplacés, vous avez cru en vain. Pourquoi vous avez cru en vain? Parce que ce n'est pas la vraie évangile, c'est une fausse évangile. Jouer à l'Église, tout le monde peut faire ça. Jouer aux religieux, tout le monde peut faire ça. Mais l'Évangile est une puissance de Dieu. Puis il va continuer un peu plus loin. Il va nous dire, avant tout, comme vous l'avez reçu, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Parce que les thèmes pour Paul est très important. Donc, ça élimine beaucoup de choses. Hein? Comment se débarrasser de nos péchés? Bien, c'est Christ qui a pris sur lui nos péchés. Lui qui était sans péché, il est devenu péché pour nous afin qu'on devienne justice de Dieu en lui. Et c'est important. Il va décrire son évangile encore. Il va dire, il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc, si je veux savoir quels sont les termes, quelle sorte d'évangile que l'apôtre Paul proclame, je dois retourner aux Écritures. Les Écritures parlent. Paul donne trois fois, il donne son témoignage dans les Actes 9, 24, 26. Il est devant Agrippa. Puis il va dire, Agrippa, je suis devant toi, là, les Juifs m'ont emmené ici. Là. Puis ce n'est pas parce que j'ai tué quelqu'un, c'est parce que je proclamais quelque chose, je disais quelque chose. Puis il dit, voici ce que je disais. J'ai prêché, j'ai proclamé, j'ai été un carouso, j'ai été quelqu'un qui a verbalisé une vérité de Dieu. J'ai prêché la repentance. Quel mot bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne pourrais pas aller dans le détail de tout ce que j'ai parce que c'est trop long. J'ai prêché la repentance. Une vive brûlure de l'âme qui cesse ma manière de vivre d'autrefois. Une vive brûlure de l'âme qui me fait réaliser ma petitesse et ma pauvreté spirituelle. Une vive brûlure de l'âme. On se repent une fois pour venir au pied de la croix et accepter Christ, puis on passe le reste de notre vie chrétienne à se repentir en luttant contre le péché qui si facilement nous enveloppe. La repentance. Est-ce que le péché, est-ce que nous le voyons aussi grave que Dieu le voit? Le mot péché, je me souviens quand je faisais du profil dans les années 90, une femme m'avait déchiré le profil, garoché à pleine face, quand elle est arrivée au mot péché. Hey, voyons donc. Manquer le but pour lequel nous avons été créés, développer des relations tordues, transgresser la loi de Dieu, on ne veut pas entendre parler de ça. Mais c'est l'Évangile que Paul prêchait. J'allais un peu plus loin. La conversion à Dieu. Une conversion, c'est avant, je m'en allais à Montréal, là, je m'en vais à Québec. Je me suis converti. J'ai viré de bord. J'ai eu une conviction profonde que la manière que je m'en allais, je n'allais pas à la bonne place. Il prêchait la conversion, Paul. Il ne prêchait pas de venir faire semblant d'être chrétien d'une assemblée. C'est un changement radical de la manière de vivre. Je vais aller un peu plus vite parce que je vais rentrer aussi dans ça. Et regardez bien le punch quand tu regardes la définition de l'Évangile. Là, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Tu sais, quelqu'un va dire « je me repens ». Puis qu'est-ce qu'il fait? Il parle si fort qu'on n'a pas entendu le mot « repentance » de sa bouche. Paul prêchait un évangile puissant qui faisait en sorte que notre cœur était vivement touché, puis on a chanté cantique pour ça ce matin, n'est-ce pas? Et la conversion se faisait, le changement se faisait radicalement. Et ma manière de vivre le lundi matin, le mardi matin, le mercredi matin, c'était que je pratiquais des œuvres dignes de la repentance. Mélangez pas les cartes. L'Évangile ne dit pas « tu fais des œuvres pour être sauvé ». L'Évangile dit « tu fais quoi? » Un coup que tu t'es repenti, que tu t'es converti devant le roi Agrippa, tu fais les œuvres que Dieu a préparées d'avance, qu'on va voir tout à l'heure pour nous autres. Voyez-vous, l'Évangile que l'apôtre Paul proclame, c'est un Évangile très terre-à-terre. C'est pas « je pense de même » ou « je crois comme ça peut-être ». C'est très, très terre-à-terre. Ça transforme des vies, mes amis. Parce qu'effectivement, eux, Angelios, me disent tout simplement « bonne nouvelle ». C'est une bonne nouvelle. Hey, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Ce n'est pas « j'ai une belle religion pour vous autres. J'ai une belle réunion pour vous autres. » Non, j'ai une bonne nouvelle. Christ est mort pour nos péchés. Christ a été enseveli. Christ est ressuscité des morts. Parce que dans le fond, Paul est en train de parler d'une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité sur la planète Terre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle quoi? Les choses anciennes sont quoi? Et toutes les autres choses sont devenues quoi? Nouvelle humanité. Nouvelle humanité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une nouvelle humanité? C'est qu'on est des êtres humains qui n'est plus comme avant. On est motivé par autre chose qu'avant. On a des buts autres qu'avant. On voit plus loin qu'avant. On a un regard spirituel sur les choses. Et on est intéressé de voir les choses comme Dieu voit les choses. Donc, on lit la Bible pour mieux connaître Dieu. Nouvelle humanité. Et j'ai fait un petit résumé là, de cinq chapitres. Là. Vous allez voir, en trois mots. Il ne faut pas mêler les cartes. On est une nouvelle humanité. Et notre premier trait, notre première caractéristique de cette nouvelle humanité est premièrement assis ensemble. Ça, c'est Éphésiens, hein? 2, 1 à 6. Vivant avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Voici ce que la Bible dit de l'Évangile. La première grande vérité de la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà victorieux, assis en Jésus-Christ, déjà au ciel. On attend la rédemption de nos corps, hein, Romains 8, 23. Et là, on attend quoi? Un nouveau corps sans péché. Puis en ce qui nous concerne, nous sommes en train de vivre pèlerins et voyageurs sur cette terre. On est en train d'être de passage ici, même si tout nous dit qu'on est ici pour tout le temps. C'est faux. Alors, la première position de l'Évangile, que l'Évangile proclame, Paul proclame, première position, ce n'est pas une position d'activiste. Je vais appeler tes marches. Appelle-t-elle si vous voulez. Mais ce n'est pas la première chose. La première chose, c'est la sécurité. Assis, sécure. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8, 1, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit, je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. La première position de l'Évangile que Paul prêche, c'est assis dans les lieux célestes en Christ. Déjà victorieux, quoique maintenant dans la bataille. Quoique maintenant, j'ai une nature pécheresse qui me donne une tendance facile à pécher. Une nouvelle humanité qui est sécurisée par Dieu, assis dans les lieux célestes. La deuxième chose, c'est une nouvelle manière de vivre. Vous avez tous vu ça, des photos de régime, hein? Avant? Avant? Vous avez tous vu ça? Ils prennent le grand pantalon, puis ils tirent le sac. Hey, regarde, j'ai pris ça, là, pendant 3 mois, puis j'ai perdu 40 livres, je ne sais pas trop. Mais bon. C'est une nouvelle manière de vivre. Ils veulent te faire croire qu'il y a une nouvelle manière de vivre en 30 jours. Ou en 5 bouteilles, ou je ne sais pas, peu importe, un paquet de pilules. Nouvelle manière de vivre. C'est pas évident, hein? On traîne des cadavres avec nous autres, des idoles, des manières de vivre d'autrefois, notre caractère, on est en train d'en parler avec la série Les Géants, hein? Très facile. Quand on pèse sur le piton de la personne, on devient un petit bébé lala de 3 ans. Une nouvelle manière de vivre. Et là, j'allais assez vite dans cela, parce que j'en ai 6. Ça vient de Paul. C'est pas de ma faute, c'est Paul qui a dit ça. Puis c'est le mot marché. C'est intéressant, le mot marché dans ça. Mais qu'est-ce que veut dire le mot marché en 2018? Marche rapide, marche lente, marche prudente, marche excitante, marche dangereuse. Marche. Ça a l'air que marcher, c'est super bon, hein? C'est mieux que faire du jogging pour un gars de 70 ans. Ils disent ça. Marcher, spirituellement, on transfère ça spirituel, OK? Ça veut dire quoi? Se comporter, se conduire, agir. On est-tu d'accord? Et voilà le défi qui est devant nous. Marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous autres. Oh, je ne sais pas ce que je dois faire, mais Dieu les a préparées. Rouvre-toi les yeux, tu vas le voir. Tu as une capacité, tu as un cœur qui désire aider, tu as un cœur qui désire faire comme Jésus. Mais si le cœur pour faire comme Jésus n'est pas là, pose-toi la question si tu es assis avant. Dieu a un plan pour ma vie, Dieu a un plan pour votre vie, Dieu a un plan pour nos vies, un plan excitant, un plan merveilleux. Et on marche dedans, on agit dedans. On fonctionne dedans. Et Dieu a préparé d'avance des œuvres, des choses, des efforts qui prennent de l'huile à bras souvent. Préparé. Deuxième chose qu'il nous dit, marcher d'une manière digne. Encore une fois, Paul, des fois je dis dans moi-même, si Paul viendrait voir ce qui se passe en 2018, il tomberait dans une crise cardiaque. Puis je ne veux pas commencer à donner des exemples, ça me fait trop de la peine. Voyez-vous, j'ai souligné le mot vocation. Clésis. Vous savez? Savez-vous ça, vous n'êtes pas dans une église ici ce matin? Vous êtes dans un bâtiment. Le mot église, c'est ecclésia. Ec, or, clésia, même mot, appelé. Ceux qui sont appelés hors du monde. Pas pour rentrer ici, pour rentrer dans la présence de Dieu. Mis à part pour Dieu. Saint. Marcher d'une manière digne. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'est jamais en train de faire de péché. Ça, je fais attention avec ça. Mais je suis en train de dire que quand on fait quelque chose d'indigne, l'Esprit qui est en nous nous brûle en dedans, puis on se repent. On se change d'attitude. On vire de bord. On demande pardon à Dieu. Parce qu'il y a un mécanisme de pardon dans la Bible. Hein? 1 Jean 1,9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. » Mais ça prend une réelle repentance. Dans la Bible, il y a 6 sortes de repentance. Il n'y en a rien qu'une qui est vraie. 5 autres ne sont pas bonnes. Pas le temps d'en parler. Checkez ça, vous allez voir. Vous allez tomber sur le dos. C'est épeurant. Regardez, troisième marche. Marchez plus comme des sans-dieux. Après ça, vous dites, comment se fait ça que les responsables viennent me parler de telle affaire, de telle affaire? C'est pas deux affaires. Badada, badada. Un frère ou une sœur qui vous approche, qui vous dit, frère, sœur, la manière que tu parles, la manière que tu agis, tu ne démontres pas aucunement, tu es un enfant de Dieu. Si tu prononces le nom du Seigneur Jésus, éloigne-toi du péché. On est descendu là-bas tellement basse que pour les avoir dans la communauté chrétienne, on fait rentrer n'importe qui. Mais la question qu'on doit se poser, y es-tu rentré en haut, assis dans les lieux célestes, dans le repos? Et la deuxième mot, c'est marcher, c'est-à-dire un agissement. Voici donc ce que je vous affirme dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire. Ça, c'est traduction, pas Genève, mais c'est 21. C'est de conduire, marcher, comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Il y a des pensées qui n'ont pas d'allure selon Dieu, puis il y a des pensées qui ont de l'allure selon Dieu. C'est-tu étrange, ça? C'est pas étrange. Où prenez-vous vos vertus? Où prenez-vous votre vérité? Ou comment interprétez-vous la réalité de ce monde? Comment interprétez la réalité de la vie chrétienne? Comment interprétez la réalité? Comment? Mes amis, les pensées de ce monde sont en inimitié contre Dieu, sont contre Dieu. Ce monde est tricoté afin de détruire votre vie chrétienne et vous empêcher, si vous n'êtes pas encore venu au pied de la croix, de venir au pied de la croix. C'est tricoté pour ça, dans toutes les mentalités. Quatrième, marcher dans l'amour. Celle-là, c'est la plus... Non, je ne devrais pas dire ça, là. Ça a plus... Celle-là est embêtante. J'ai trouvé un synonyme. Est embêtante marcher dans... Parce que ça vaut pourquoi? Parce qu'on pense tous qu'on sait ce que ça veut dire, l'amour. Mauvaise définition de l'amour, vous êtes fini. Écoute, avez-vous déjà entendu une chanson radio qui n'a pas le mot « amour » dedans? Non, mais pensez-y, essayez d'en trouver une l'autre jour, madame, machin. Je m'en allais en auto, là, puis l'amour, 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 love, 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 love. J'ai écouté un western qui disait « I lost my love, I lost my love, I found my love. » Puis, non, mais c'est marcher dans l'amour, c'est l'affaire qui est le plus grand défi de nous tous, parce qu'on doit définir l'amour comme Jésus l'a vécu. Puis la plus belle démonstration de l'amour, c'est regarder la manière que Jésus a vécu. Et là, vous allez dire, c'est tout un défi. Voici, c'était encore des Carson, parce que je le lis dans cet instant, ça fait 2 ans que je le lis. Il a écrit un petit, je ne sais pas s'il est en livre, mais il sait que c'est un essai. The Difficult Doctrine of the Love of God. La doctrine difficile de l'amour de Dieu. Puis on pense tout, c'est pas difficile l'amour. Et soda. Il y a 5 aspects à l'amour de Dieu. Pas, il n'y a pas 5 amours, des aspects. L'amour de Dieu. Hey, regardez, laissez pénétrer le texte. Devenez donc imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Savez-vous combien d'imitateurs d'Elvis qu'il y a sur la terre? CNN a fait une enquête. Je vous le donne en 1000. Elvis, il y a des photocopies. Il y en a 85 000 enregistrées. Et la plupart gagnent leur vie avec ça. Quelques-uns. 85 000 imitateurs d'Elvis. Combien y a-t-il dans cette assemblée d'imitateurs de Jésus? Je vous dis, je n'étais pas vous questionner un matin. C'est notre plus grand défi, c'est mon défi à moi. Je me parle à moi-même, là. Je me le dis à moi-même, Michel, tu ressens-tu à Jésus quand le gars te pile le pied? Surtout celle-là, parce qu'elle est baisée. Parce qu'on a tout notre point faible, hein? Moi, c'est celle-là, cette année. On a tout notre piton, hein, qu'on a envie d'y sauter à la gorge et de l'étouffer, là. Hein? Il y a une face à face dedans. Non, on avait des expressions, nous autres, dans le Saint-Temps. Mais voyez-vous, quelque part, qu'est-ce que Jésus ferait devant Pilate? Qu'est-ce que Jésus... Non, vous savez, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est identifié. En tout cas, on n'ira pas là. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous. L'évangile que Paul prêche, qui proclame, c'est un évangile vrai qui touche la vie de tous les jours. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie. On doit donner notre vie les uns pour les autres. Vous savez, ça prend beaucoup d'amour à dire à quelqu'un « tu pues de la bouche ». Quelqu'un me l'a déjà dit. Je remercie Guy Dupont en passant. Ça fait longtemps, depuis ce temps-là, je ne suis plus encore, mais c'est ma femme qui me le dit. Si un frère ou une sœur va vous voir et il vous parle de votre péché qui ne ressemble pas à Jésus, là, il vous aime beaucoup. Une fois, moi, il y a bien des années, j'ai repris deux personnes dans la même journée parce que ça n'allait pas bien dans cette leur vie. Il y en a un qui a sorti en claquant la porte, en me maudissant, en sacrant, puis il y en a un autre qui me dit merci. Dans la même journée, c'est drôle, hein? Non, c'est pas drôle. Dans la même journée. Voyez-vous, marcher dans l'amour veut dire s'asseoir avec quelqu'un et dire, frère, c'est bien de valeur, mais ton droit de micro, tu ne l'auras plus. Parce que je t'aime trop. Si tu vois ton enfant aller jouer sa ligne blanche, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, il a décidé ça. Il est libre. Si tu l'aimes, tu vas dire, arrête d'ailleurs, elle ne va pas jouer sa ligne blanche. Hein? Si tu l'aimes, tu vas, hey, tosse-toi de l'espèce. Non, tu ne diras pas ça. Mais tu vas dire, viens-t'en, on va mettre une clôture, pas t'y aller. Une petite restriction, parce qu'on t'aime, pour te garder en sécurité. C'est pas normal. Et je vous le dis, c'est tellement plate le mot amour, là, d'un certain sens, quand on est chrétien, qu'il semble que c'est quoi qu'on n'atteint jamais à la perfection. Puis je pense que c'est vrai. Il y en a qui sont plus faciles à aimer que d'autres. Hein, vous remarquez? Il y en a qu'on s'adonne bien. Puis c'est correct, c'est des petites gangs. Hein? Mais n'oublie pas que la plus grosse gang, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit, qui sont liés ensemble. Le peuple de Dieu, c'est le meilleur des peuples, même avec tous ses défauts. N'oubliez pas ça. Il y a le peuple des sportifs. Hein? Il y a le peuple des hockeyeurs. Il y a le peuple des joueurs d'échecs. Il y a le peuple des joueurs de quilles. Il y a le peuple des joueurs de poche. C'est secondaire. OK, avant de m'arrêter mes folies. Là. Bon, OK. La cinquième, l'avant-dernière. Autrefois, vous étiez quoi? Ténèbres. Puis en passant, là, depuis, il y a là avec les pensées, il y a un petit jeu de mots qui se fait avoir de la tête puis sans tête. Vous êtes une gang de sans tête. Vivez pas comme quelqu'un qui n'a pas de tête sur ses épaules. Vous avez Christ, vous savez tout ce que vous devez faire. Le problème, c'est de le faire, hein, naturellement. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Wow! C'est ça l'évangile que Paul proclame. Avant, j'agissais comme cela, et maintenant, j'agis comme ça. Avant, ma réaction, ah. Même il y a un frère, une fois, je me rappelle, c'est un colosse. Il dit, t'es chanceux que je sois chrétien, parce qu'il dit, si tu m'aurais dit ça, v'là 3 mois, je t'aurais cassé les reins. Allez, merci Seigneur. 6. Dernière. Faites donc attention de la façon dont vous conduisez. Hein? Vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Ceux qui ont... Ah oui, j'avais d'avancer mon histoire de pas de tête, mais c'est là le pas de tête. Il semblait que je l'ai trouvé quelque part. Sage, pas sage. Mais ça, quelle sorte de sagesse? C'est-tu le Doc Maillot qui vous donne de la sagesse, comment vivre? Jeannette Bertrand, les Jeannettes du Québec? Est-ce qu'elle a la sagesse pour vivre au Québec? Est-ce qu'elle a? Ou elle est puisée votre sagesse? C'est pour ça qu'on dit aux jeunes, lisez vos Bibles, méditez vos Bibles, étudiez vos Bibles, suivez des cours, EBE, ça va venir bientôt, le cours des Proverbes qui s'en vient. C'est ça, c'est qu'on veut être sage, parce qu'on arrive quotidiennement devant des décisions de virer à gauche, virer à droite, faire ça ou pas faire ça. C'est tout un travail. Seigneur, faites ça. Qu'est-ce que Jésus fera à ma place? Hein? La vieille question. Bon, une nouvelle vocation, c'est-à-dire un appel. J'ai une vocation. Écoute, c'est une vocation être chrétien. C'est pas, je vais être chrétien le dimanche matin, puis ça va faire, puis achetez-moi pas trop. C'est une vocation, c'est l'appel de Dieu réel dans la vie d'un cœur qui désire vivre pour Dieu par la grâce de Dieu. Donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Deuxième mot. Assis, marcher, mon troisième mot, c'est quoi? Tenir ferme. Contre les méthodes du diable. Méthodos, c'est intéressant. Le mot veut dire une. Le diable, il a une méthode. Il nous connaît, là. Il connaît la nature humaine. Il a une méthode. C'est toujours la même. Dr. Lehman disait quand tu as fait 600 cas différents dans le counseling biblique, tu les as tout faites. Il n'y en a plus. C'est toujours la même affaire. C'est toujours la même méthode. C'est toujours les mêmes tentations. C'est toujours. Il y a des top 10, là. On n'a pas le temps de les nommer, mais les top 10. Tenir ferme. Là, je vais arrêter de prêcher, puis je vais faire écouter mon petit message. Là, écoutez comme il faut, puis chantez dans votre cœur. Moi, je l'ai écouté plusieurs fois cette semaine, ça m'a fait du bien. C'est pas facile, la vie chrétienne, vous savez. Il faut être prêt à souffrir. On est dans un combat spirituel. C'est une guerre spirituelle. Si vous n'êtes pas à Jésus-Christ, c'est pour vous empêcher de venir au pied de la croix pour accepter Christ. Si vous êtes à Jésus-Christ, c'est de détruire votre témoignage. Vous paralysez.
Prenez la vérité comme la ceinture autour de la taille et comme le cuirage. Prenez les mots de la vie, mettez la beauté comme Jésus, la belle et la terre, pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez.
Puis en passant, il y a des réunions de prière le mercredi ici. Puis il y a des réunions de prière dans les maisons aussi, certaines maisons. Alors, je termine avec ça. Je vais vous montrer mon autre affaire. Ah, j'en ai une dernière après, je pense. Ça se peut-tu? Parce que c'est la conclusion. Peux-tu me l'ôter, ça? Non, juste l'enlever. C'est fun, hein? OK, regardez bien. Enfin, résumer mon affaire. L'évangile que proclame Paul, il nous rassure qu'on est assis, il nous certifie qu'on doit marcher, puis il nous encourage de tenir ferme. C'est simple, hein? C'est l'évangile dans la Bible. Vivons ensemble l'évangile que Paul proclame. Prions. Seigneur, on est tous ensemble devant toi, devant ce grand défi d'être des chrétiens qui vivent la bonne nouvelle. Parce que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Et Seigneur Dieu, c'est ce qu'on veut être. Des chrétiens qui ressemblent à Jésus. Loin de nous la pensée de venir jouer à religion ici, Seigneur, ou ailleurs. Mais d'être vraiment des authentiques. Ceux qui vivent. Ceux qui savent qu'ils sont assis dans les lieux célestes. Déjà victorieux à cause du sang précieux de Christ, lequel nous a rachetés. Ceux qui savent qu'ils doivent marcher sérieusement et dignement pour toi. Et ceux qui tiennent bon au travers des temps difficiles. Seigneur Dieu, fais de nous, hommes et femmes ici ce matin, les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que nous soyons, à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Amen.